Aristote, Métaphysique, livre 3, chapitre 2e. D'abord, comme nous nous le sommes demandé en commençant, appartient-il à une seule science ou à plusieurs d'examiner toutes les espèces de causes? Mais comment appartiendrait-il à une seule science de connaître des principes qui ne sont pas contraires les uns aux autres? Et de plus, il y a un grand nombre d'objets où ces principes ne se trouvent pas tous réunis. Comment, par exemple, serait-il possible de rechercher la cause du mouvement ou le principe du bien dans ce qui est immobile? En effet, tout ce qui est bien en soi et par sa nature est un but, et par cela même une cause, puisque c'est en vue de ce bien que se produisent, qu'existent les autres choses. Un but, ce en vue de quoi est nécessairement but de quelque action. Or, il n'y a point d'action sans mouvement. De sorte que, dans les choses immobiles, on ne peut admettre ni l'existence de ce principe du mouvement, ni celle du bien en soi. Aussi, ne démontre-t-on rien dans les sciences mathématiques au moyen de la cause du mouvement. On ne s'y occupe pas davantage du mieux et du pire. Et même, aucun mathématicien ne tient compte de ces principes. C'est pour ce motif que quelques sophistes, Aristippe par exemple, repoussaient ignominieusement les sciences mathématiques. Dans tous les arts, disait-il, même dans les arts manuels, dans celui du maçon, du cordonnier, on s'occupe sans cesse du mieux et du pire, tandis que les mathématiques ne font jamais mention du bien ni du mal. Mais s'il y a plusieurs sciences des causes, si chacune d'elles s'occupe de principes différents, laquelle de toutes ces sciences sera celle que nous cherchons? Ou, parmi les hommes qui les posséderont, lequel connaîtra le mieux l'objet de nos recherches? Il est possible qu'un seul objet réunisse toutes ces espèces de causes. Ainsi, dans une maison, le principe du mouvement, c'est l'art et l'ouvrier. La cause finale, c'est l'œuvre. La matière, la terre et les pierres. Le plan est la forme. Il convient donc, d'après la définition que nous avons assignée précédemment à la philosophie, de donner ce nom à chacune des sciences qui s'occupent de ces causes. La science, par excellence, celle qui dominera toutes les autres, à laquelle les autres sciences devront céder en esclaves, c'est assurément celle qui s'occupe du but et du bien, car tout le reste n'existe qu'en vue du bien. Mais la science des causes premières, celle que nous avons définie, la science de ce qu'il y a de plus scientifique, ce sera la science de l'essence. On peut, en effet, connaître la même chose de bien des manières, mais ceux qui connaissent un objet par ce qu'il est, connaissent mieux que ceux qui le connaissent par ce qu'il n'est pas. Parmi les premiers même, nous distinguons des degrés de connaissance. Ceux-là en ont la science la plus parfaite, qui connaissent non point sa quantité, ses qualités, ses modifications, ses actes, mais son essence. Il en est de même aussi de toutes les choses dont il y a démonstration. Nous croyons en avoir la connaissance lorsque nous savons ce en quoi elle consiste. Qu'est-ce, par exemple, que construire un carré équivalent à un rectangle donné? C'est trouver la moyenne proportionnelle entre les deux côtés du rectangle. Et de même pour tous les autres cas. Pour la production, au contraire, pour l'action, pour toute espèce de changement, Nous croyons avoir la science lorsque nous connaissons le principe du mouvement, lequel est différent de la cause finale, et en est précisément l'opposé. Il paraîtrait donc, d'après cela, que ce sont des sciences différentes qui doivent examiner chacune de ces causes. Ce n'est pas tout. Les principes de la démonstration appartiennent-ils à une seule science ou à plusieurs? C'est encore là une question. J'appelle principes de la démonstration ces axiomes généraux sur lesquels tout le monde s'appuie pour démontrer. Ceci, par exemple. Il faut nécessairement affirmer ou nier une chose. Une chose ne peut pas être et n'être pas en même temps. Et toutes les autres propositions de ce genre. Eh bien, la science de ces principes est-elle la même que celle de l'essence ou en diffère-t-elle? Si elle en diffère, laquelle des deux reconnaîtrons-nous pour celle que nous cherchons? Les principes de la démonstration n'appartiennent pas à une seule science, cela est évident. Pourquoi la géométrie s'arrogerait-elle, plutôt que toute autre science, le droit de traiter de ces principes? Si donc toute science quelconque a également ce privilège, et si pourtant elles ne peuvent pas toutes en jouir, l'étude des principes ne dépendra pas plus de la science qui connaît les essences que de toute autre. Et puis, comment y aurait-il une science des principes? Nous connaissons de prime abord ce qu'est chacun d'eux. Aussi, tous les arts les emploient-ils comme chose bien connue. Tandis que s'il y avait une science démonstrative des principes, il faudrait admettre l'existence d'un genre commun, objet de cette science. Il faudrait, d'un côté, les accidents du genre, de l'autre, des axiomes, car il est impossible de tout démontrer. Toute démonstration doit partir d'un principe, porté sur un objet, démontrer quelque chose de cet objet. Il s'ensuit que tout ce qui se démontre pourrait se ramener à un genre unique. Et en effet, toutes les sciences démonstratives se servent des axiomes. Or, si la science des axiomes est une autre science que la science de l'essence, laquelle des deux sera la science souveraine, la science première? Les axiomes sont ce qu'il y a de plus général. Ils sont les principes de toute chose. Si donc ils ne font pas partie de la science du philosophe, quel autre sera chargé de vérifier leur vérité ou leur fausseté? Enfin, y a-t-il une seule science pour toutes les essences? Y en a-t-il plusieurs? S'il y en a plusieurs, de quelle essence traite la science qui nous occupe? Qu'il n'y ait qu'une science de toutes les essences, c'est ce qui n'est pas probable. Dans ce cas, il y aurait une seule science démonstrative de tous les accidents essentiels des êtres, puisque toute science démonstrative soumet au contrôle, de principes communs, tous les accidents essentiels d'un sujet donné. Il appartient donc à la même science d'examiner, d'après des principes communs, seulement les accidents essentiels d'un même genre. En effet, une science s'occupe de ce qui est. Une autre science, soit qu'elle se confonde avec la précédente ou s'en distingue, traite des causes de ce qui est. De sorte que ces deux sciences ou cette science unique, dans le cas où elles ne font qu'une, s'occuperont elles-mêmes des accidents du genre qui est leur objet. Mais d'ailleurs, la science n'embrasse-t-elle que les essences, ou bien porte-t-elle aussi sur leurs accidents? Par exemple, si nous considérons comme des essences les solides, les lignes, les plans, la science de ces essences s'occupera-t-elle en même temps des accidents de chaque genre, accidents sur lesquels portent les démonstrations mathématiques, ou bien sera-ce l'objet d'une autre science? S'il n'y a qu'une science unique, la science de l'essence sera alors une science démonstrative. Or, l'essence, à ce qu'il semble, ne se démontre pas. Et s'il y a deux sciences différentes, quelle est donc celle qui traitera des accidents de la substance? C'est une question dont la solution est des plus difficiles. De plus, ne faut-il admettre que des substances sensibles, ou bien y en a-t-il d'autres encore? N'y a-t-il qu'une espèce de substance, y en a-t-il plusieurs? De ce dernier avis sont, par exemple, ceux qui admettent les idées, ainsi que les êtres intermédiaires, objets des sciences mathématiques. Ils disent que les idées sont par elles-mêmes cause et substance, comme nous l'avons vu en traitant cette question dans le premier livre. Cette doctrine est sujette à 1000 objections. Mais ce qu'il y a de plus absurde, c'est de dire qu'il existe des êtres particuliers en dehors de ceux que nous voyons dans l'univers, mais que ces êtres sont les mêmes que les êtres sensibles, à cette seule différence près que les uns sont éternels, les autres périssables. En effet, tout ce qu'ils disent, c'est qu'il y a l'homme en soi, le cheval, la santé en soi, imitant en cela ceux qui disent qu'il y a des dieux, mais que ces dieux ressemblent aux hommes. Les uns ne sont pas autre chose que des hommes éternels. Les idées des autres ne sont de même que des êtres sensibles éternels. Si, outre les idées et les objets sensibles, l'on veut admettre les êtres intermédiaires, il s'ensuit une multitude de difficultés. Car évidemment, il y aura aussi des lignes intermédiaires entre la ligne sensible, et de même pour toute espèce de choses. Prenons pour exemple l'astronomie. Il y aura un autre ciel en dehors de celui qui tombe sous nos sens, un autre soleil, une autre lune, et de même pour tout ce qui est dans le ciel. Or, comment croire à leur existence? Ce nouveau ciel, on ne peut raisonnablement le faire immobile. Et d'un autre côté, il est tout à fait impossible qu'il soit en mouvement. Il en est de même pour les objets dont traite l'optique et pour les rapports mathématiques des sons musicaux. Là encore, on ne peut admettre, et pour les mêmes raisons, des êtres en dehors de ceux que nous voyons. Car, si vous admettez des êtres sensibles intermédiaires, il vous faudra nécessairement admettre des sensations intermédiaires pour les percevoir, ainsi que des animaux intermédiaires entre les idées des animaux et les animaux périssables. On peut se demander sur quels êtres porteraient les sciences intermédiaires. Car, si vous reconnaissez que la géodésie ne diffère de la géométrie qu'en ce que l'une porte sur des objets sensibles, l'autre sur des objets que nous ne percevons point par les sens, il vous faut évidemment faire la même chose pour la médecine et pour toutes les autres sciences, et dire qu'il y a une science intermédiaire entre la médecine idéale et la médecine sensible. Et comment admettre une telle supposition? Il faudrait alors dire aussi qu'il y a une santé intermédiaire entre la santé des êtres sensibles et la santé en soi. Mais il n'est pas même vrai de dire que la géodésie est une science de grandeurs sensibles et périssables, car dans ce cas, elle périrait quand périraient ses grandeurs. L'astronomie elle-même, la science du ciel, qui tombe sous nos sens, n'est pas une science de grandeur sensible. Ni les siècles sensibles ne sont les lignes du géomètre, car les sens ne nous donnent aucune ligne droite, aucune courbe qui satisfasse à la définition. Le cercle ne rencontre pas la tangente en un seul point, mais par plusieurs, comme le remarquait Protagoras dans ses attaques contre les géomètres. Ni les mouvements réels, les révolutions du ciel, ne concordent complètement avec les mouvements et les révolutions que donnent les calculs astronomiques. Enfin, les étoiles ne sont pas de la même nature que les points. D'autres philosophes admettent aussi l'existence de ces substances intermédiaires entre les idées et les objets sensibles. Mais ils ne les séparent point des objets sensibles. Ils disent qu'elles sont dans ces objets mêmes. Il serait trop long d'énumérer toutes les impossibilités qu'entraîne une pareille doctrine. Remarquons cependant que non seulement les êtres intermédiaires, mais que les idées elles-mêmes seront nécessairement aussi dans les objets sensibles, car les mêmes raisons s'appliquent également dans les deux cas. De plus, on aura nécessairement deux solides dans un même lieu, et ils ne seront pas immobiles, puisqu'ils seront dans des objets sensibles en mouvement. En un mot, à quoi bon admettre des êtres intermédiaires pour les placer dans les objets sensibles? Les mêmes absurdités que tout à l'heure se reproduiront sans cesse. Ainsi, il y aura un ciel en dehors du ciel qui tombe sous nos sens. Seulement, il n'en sera pas séparé. Il sera dans le même lieu, ce qui est plus inadmissible encore que le ciel séparé.